9h-11h,
Wendy Bouchard.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, chers amis auditeurs, sur Europe 1 ce jeudi 16 mai, jour de l'opération Red Day, journée rouge comme le cœur pour sensibiliser le public aux maladies cardiovasculaires. Je vous remercie, ma chère Julie, de vous être parée de rouge et je remercie Isabelle Veil de la Fondation Agila de venir nous éclairer aussi sur le cœur des femmes en danger, en particulier c'est une sensibilisation qui s'opère à destination de ce public. Vous nous avez distribué des petits badges aussi avec ce cœur sur fond blanc pour nous alerter. Nos cœurs, justement, sont-ils plus fragiles qu'avant? 50 000 arrêts cardiaques en France chaque année. 63% des victimes sont des hommes, mais ces maladies restent la première cause de mortalité chez les femmes. Nos modes de vie sont-ils responsables des AVC qui ont peut-être, hélas, touché vos proches? Est-ce qu'on peut prévenir davantage ces accidents cardiaques? Eh bien, on a réuni pour vous les meilleurs spécialistes, professeurs de cardiologie, chirurgiens, qui nous permettront aussi de parler des grandes avancées en la matière. On est ensemble sur Europe 1 jusqu'à 11h et vos témoignages sont les bienvenus pour vous rassurer, pour vous éclairer aussi sur ce sujet, Julie.
39-21, c'est le standard, 50 centimes la minute.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et avec vous Isabelle Veil, vous qui avez lancé en France cette opération depuis 10 ans maintenant, Red Day, sauver le cœur des femmes, bonjour.
Bonjour Wendy.
Et cette tenue pour symboliser cet engagement, vous présidez cette fondation Agila et vous avez co-écrit Sauver le cœur des femmes aux éditions Erol. Bonjour Nicolas Danchin.
Bonjour.
Professeur de cardiologie à l'hôpital Pompidou, cardiologue à Paris, vous qui êtes bien sensibilisé et pour cause à ces questions-là. Le fait de mettre en avant justement la dimension féminine dans cette affaire vous touche et est pour vous essentielle?
Alors je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important effectivement parce que très longtemps on a pensé que les maladies cardiaques, l'infarctus en particulier, c'était l'apanage des hommes.
Oui.
Et puis malheureusement, les femmes sont en train, progressivement, mais assez vite pour certaines d'entre elles, de rattraper les hommes. Et donc ça pose problème parce que quand on a en tête un schéma où les femmes ne sont pas touchées par une maladie, eh bien on risque de passer à côté tout simplement. Donc en fait, c'est important de savoir, à la fois pour l'ensemble de la population, mais aussi pour les médecins, que les femmes, y compris les femmes jeunes, peuvent être touchés par des maladies cardiaques.
Et voilà pourquoi vous avez repris, Isabelle, à votre compte, cette initiative américaine et qu'il vous a paru essentiel de la transposer en France.
Oui, tout à fait. Il y a à peu près maintenant, un peu plus de 10 ans, j'ai rencontré l'American Heart Association à New York et ils m'ont demandé de reprendre cette problématique en France, qui aux États-Unis ça s'appellerait le Go Red for Women. Mm-hmm. Et donc on a lancé Sauver le cœur des femmes maintenant, effectivement, il y a pratiquement 10 ans. Et c'est important parce que les femmes ne pensent pas du tout pouvoir être touchées par ces maladies. Et plus elles sont à risque, et moins elles pensent être touchées par les maladies cardiovasculaires.
Il y a des signaux d'alerte qui peuvent être aussi moins clairs chez les femmes que chez les hommes sur ces maladies cardiaques et cardiovasculaires. On va y venir après dans le détail. Nicolas Danchin.
Alors, pas forcément, c'est tout le problème. Mais oui. Ça, c'est vrai pour les femmes comme pour les hommes.
D'accord.
Très souvent, quand on fait un infarctus, on n'a jamais eu aucun signe d'alerte auparavant. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, une artère qui simplement avait des dépôts de cholestérol à l'intérieur, elle va se boucher avec un caillot qui vient boucher l'artère. Ça peut venir quasiment instantanément. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement brutal. Et souvent, avant, l'artère était un petit peu rétrécie, mais pas suffisamment pour que ça donne des symptômes, que ça donne ce qu'on appelle l'angine de poitrine, par exemple. Mmh. Donc du coup, il n'y a pas forcément de signaux d'alerte.
D'accord.
La deuxième chose, c'est que pour les femmes, quand elles font un infarctus du myocarde, sont en moyenne plus âgées que les hommes. On va voir, si on revient sur l'évolution historique des choses, que c'est en train de bouger, mais ça reste vrai à l'heure actuelle. Donc les femmes sont plus âgées que les hommes, et plus on est âgé, plus on a tendance à avoir des symptômes un petit peu plus atténués que quand on est jeune. En particulier, la douleur qu'on a au milieu de la poitrine, on retrouve ça très fréquemment chez les femmes comme chez les hommes, mais un tout petit peu plus souvent chez les femmes, ça peut être d'autres symptômes qui vont témoigner de la crise cardiaque, qui vont révéler la crise cardiaque.
D'accord. Avec des femmes, Isabelle Veil, moins touchées par les infarctus notamment que les hommes, mais qui en meurent davantage. Est-ce qu'on a des explications? Parce que vous avez réuni, vous avez rencontré les plus grands spécialistes sur le sujet.
Oui, alors ce qui ressort la plupart du temps, c'est que déjà, les femmes donc, qui sont le plus à risque pensent qu'elles ne sont pas à risque.
Alors, quand déjà, vous parlez de ces femmes-là...
C'est-à-dire, par exemple, ces femmes qui prennent... Voilà, c'est ça, le stress, la pilule, le tabac, sont des femmes qui sont très à risque, même jeunes, jusqu'à même...
Bah, on a des infarctus quand même, à des femmes de 35 ans. Nos gynécologues, c'est la première chose qu'ils nous le disent quand même. Oui, mais si vous fumez, attention à la pilule.
Oui, mais elles passent à côté. Donc du coup, on essaie, nous, de les rendre proactives sur cette problématique. Et puis effectivement, les femmes n'ont pas conscience parce qu'elles pensent qu'un infarctus, ce n'est pas pour elles. C'est ça, mon professeur. Ouais. Hein, c'est qu'elles elles ont vraiment conscience que c'est pour... Et alors que de plus en plus, elles sont touchées, que des femmes jeunes sont touchées maintenant. Des femmes de 35 ans font des infarctus. Donc c'est important de leur dire et de dire faites attention. Et c'est vrai qu'elles dans l'imaginaire collectif, elles ne pensent pas que cette maladie est pour elles. Et entre autres, les autres, mais celle-là surtout.
Or, vous ajoutez un chiffre, professeur Danchin, c'est que 33% de ces infarctus aujourd'hui sont liés au stress. Et là, hommes-femmes, on est égaux sur le sujet. Hein.
Alors, on est égaux. Ce qui est vrai, c'est que le mode de vie des femmes a changé par rapport à il y a 50 ans. On fait, vous savez, depuis 20 ans, depuis 1995, tous les 5 ans, on organise une enquête nationale en France où on recueille les données de tous les gens qui sont hospitalisés pour une crise cardiaque.
D'accord.
On fait ça pendant un mois, puis après on suit ces personnes pendant une période qui va jusqu'à 10 ans. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'entre 1995 et 2015, la proportion parmi les femmes qui font un infarctus, la proportion des plus jeunes, celles qui ont moins de 60 ans, a doublé. On était à moins de 14%, on est pratiquement à 30% maintenant parmi ces femmes qui font un infarctus. Et ça ne vient pas par l'opération du Saint-Esprit.
Oui.
Alors que pour le reste de la population, c'est-à-dire les hommes globalement, les femmes plus âgées, on a au contraire une diminution des infarctus. Alors qu'est-ce qui fait cette différence? Eh bien c'est que chez les personnes plus âgées, on a eu le temps de mettre en route un dépistage des facteurs de risque, comme l'hypertension artérielle. Mmh. On a mis en œuvre des politiques de santé publique comme la lutte contre le tabagisme. Ça a bien marché sur la plupart de la population française, sauf une catégorie, les femmes jeunes. Et les femmes jeunes, actuellement, non seulement n'ont pas un tabagisme qui diminue, mais elles fument de plus en plus, et elles fument nettement plus que les hommes jeunes.
Voilà.
C'est QFD.
Ouais, voilà. Oui. L'utilité et la vertu du Red Day, et on va prolonger cette discussion jusqu'à 11h. Isabelle Veil, vous qui présidez cette fondation Agila et qui soutenez cette initiative, qui l'organisait même Red Day, Sauver le cœur des femmes, en ce jeudi 16 mai. Le professeur Nicolas Danchin est là pour vous éclairer également. On va parler, s'il en existe, des différences ou pas physiologiques entre le cœur des hommes et le cœur des femmes, et puis surtout de toutes ces maladies qu'on appelle maladies cardiovasculaires, comment on les suit, comment on les prévient, comment on les soigne. À tout de suite sur Europe 1.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro. Démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Comment prendre soin de notre cœur? Nous vous donnons le mode d'emploi jusqu'à 11h. Et par exemple, pourquoi on ne prend pas de l'aspirine à petite dose tous les jours pour fluidifier le sang et éviter les AVC?
Les caillots, hein, professeur Danchin, répondez-nous, professeur de cardiologie.
C'est effectivement une très bonne question et ça pourrait paraître une réponse naturelle. C'est-à-dire que je vous ai dit il y a 5 minutes que les infarctus c'était dû à des caillots dans les artères du cœur. Mm-hmm. On peut se dire effectivement on devrait tous fluidifier notre sang un peu. Le problème c'est quand on le fluidifie, on le fluidifie partout. Et donc si on a le moindre pépin par ailleurs, on va saigner plus. Et puis l'aspirine a en plus des vertus, si j'ose dire, toxiques sur l'estomac. Donc ça contribue à irriter l'estomac et ça fait qu'on a plus de risques de saignement digestif. Donc l'un dans l'autre, pour la population générale, c'est-à-dire des gens qui vont bien, il n'y a pas lieu de prendre ce traitement parce qu'on réduirait un tout petit peu un risque d'infarctus qui n'est pas en soi colossal dans la population générale et qu'en revanche, on augmenterait sensiblement le risque de faire des hémorragies parfois graves.
Oui, donc on ne le prend pas en prévention.
Alors on ne prend pas en prévention chez tout le monde. Oui. En revanche, si on a fait un accident cardiovasculaire, que ce soit un infarctus, que ce soit un accident vasculaire cérébral, ou même probablement chez certains patients diabétiques, là, il est bon, voire même absolument nécessaire, de prendre un fluidifiant, et c'est généralement l'aspirine à petite dose, parce que ça, j'allais dire, c'est un très bon
là,
rapport efficacité, tolérance.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour bien prévenir ces maladies cardiovasculaires ? Isabelle Veil, vous nous parliez des personnes à risque, et notamment des femmes. Ça, on sait que quand on cumule les risques, on gâche quand même un peu les chances de vivre en bonne santé plus longtemps. Ouais. Maintenant, vous travaillez beaucoup sur l'éducation, et notamment l'éducation au check-up, c'est-à-dire aller faire un bilan régulier.
Régulièrement, exactement. C'est-à-dire que ce qu'on demande, on parle de ce fameux bilan pilule que les jeunes femmes doivent faire chaque année, et bien on leur demande de pouvoir lire les indications et les résultats et les suivre année par année. Ça, c'est très important.
Donc, une fois par an, une prise de sang.
Exactement, parce que si un paramètre change, elles vont voir leur médecin généraliste, elles en discutent avec et pour voir un petit peu ce qui se passe. Ça, c'est très important. Et puis surtout, on leur demande de faire une activité physique, parce que la sédentarité fait quand même partie des choses qui ne sont pas très bonnes pour le cœur. Mmh. Et faire une activité physique, déjà, ça vous fait du bien à la tête, donc ça réduit le stress. Et puis effectivement, ça vous permet de vous bouger et peut-être d'éviter un peu de surpoids qui pourrait peut-être à la longue se transformer en une petite obésité qui pourrait être dangereuse. Vous voyez, donc nous, on fait beaucoup de prévention au travers des opérations que l'on fait, aussi bien comme aujourd'hui qui est la journée nationale, mais aussi parce qu'on soutient la Fondation Cœur et Recherche qui justement fait des études sur l'épidémiologie. Donc ça, ces gens-là, on les soutient parce que c'est important, parce qu'ils font des études spécifiques sur le cœur des femmes. Donc c'est très important.
Oui, avec médecine plus ciblée, du coup.
Voilà, exactement. Ça, c'est important. Et on fait en fin d'année un défilé qu'on appelle le Red Défilé avec des ambassadrices. Et notamment Anne Roumanoff, qui est une de nos ambassadrices, défile sur nos défilés.
Qui a toujours affiché le rouge.
Pour moi, Anne, c'est une belle histoire, parce que je ne la connaissais pas. Je lui ai envoyé un petit message et elle a voulu tout de suite venir. Elle s'est mobilisée et c'est important, parce que quand vous avez des femmes comme vous, Wendy, comme Anne, qui se mobilisent pour dire justement il faut faire attention, eh bien effectivement pour nous c'est très important, parce qu'on a des gens qui sont connus et qui prennent une position.
Mais c'est la moindre des choses pour des questions de santé publique. Merci Isabelle. Laure va venir réagir dans un instant en 39-21 de Nevers. Professeur Danchin, est-ce qu'il y a une physiologie différente entre le cœur des femmes et le cœur des hommes, au sens où le cœur des femmes est plus ou moins fragile que celui des hommes ?
Alors, il y a des différences. Ce ne sont pas des différences considérables, en fait. Et la plus grosse différence sensible, c'est que le cœur des femmes est plus petit en volume, avec des artères plus petites, ce qui peut poser des problèmes, y compris des problèmes techniques quand on intervient sur le cœur des femmes. Quand on va plus avant, il y a effectivement...
Juste une question, est-ce que justement pour ces fameuses stènes qu'on pose, est-ce que c'est un peu une problématique quand on met un stène pour une femme, est-ce que c'est le même stène que pour un homme ?
Alors, c'est des stents en moyenne qui sont un tout petit peu plus petits, mais les différences sont faibles. Ça nous a, historiquement, quand on a commencé à mettre des stents, on avait vraiment des outils qui étaient, on va dire, un peu primitifs. Hein. Oui. C'était l'âge du Néandertal, j'exagère un peu, mais du stent. Et là, de temps en temps, ça nous posait des problèmes, parce qu'on n'avait pas des stents en diamètre suffisamment petit pour aller dans des petites artères. D'ailleurs, parfois des hommes ont des petites artères. Alors les stents, c'est des petits grillages métalliques qui viennent étayer de la paroi de l'artère. Donc quand on va enlever un rétrécissement sur une artère, on fait ça avec un petit ballon qu'on va gonfler pendant quelques secondes à l'intérieur de l'artère, à l'endroit où il y a le rétrécissement. Et en même temps, on va poser, c'est comme si vous voulez un petit étai, c'est un tuyau grillagé qui vient soutenir comme on ferait dans un tunnel. Vous voyez, c'est comme pour étayer un tunnel.
Incroyable,
et
ouais.
ce petit grillage, c'est pour que ça ne retombe pas. La nature est merveilleuse, parce que ce stent, qui est un morceau de métal, c'est de l'acier, en quelques semaines, il s'incorpore complètement dans la paroi de l'artère. Donc ça n'est pratiquement plus un corps étranger, et c'est quelque chose d'assez formidable. On a maintenant un recul de pratiquement 30, plus de 30 ans même, avec les stents, et on sait que ça ne bouge pas. Un stent qui a 30 ans, eh ben, il ne va pas donner de soucis particuliers. C'est quelque chose qui est très bien
tolérable. Et qu'est-ce qui doit nous amener à se faire poser un stent aujourd'hui, professeur Danchin, et comment on sait qu'il est nécessaire de le faire ?
Alors, la première cause, finalement, c'est la crise cardiaque. Donc en pleine crise cardiaque, on a une artère qui se bouche. Et bien la chose qu'on essaie de faire, nous cardiologues, le plus vite possible, c'est d'aller déboucher cette artère.
D'accord.
Alors il y a des moyens de le faire avec des médicaments qu'on va injecter, qui sont des espèces de desktop pour dissoudre les caillots. En revanche, ça ne marche pas à tous les coups. Il y a à peu près un tiers des cas où ça ne marche pas bien, puis c'est des médicaments qui risquent de faire saigner aussi.
D'accord.
Donc on privilégie l'idée d'aller faire comme le plombier, on va passer un furet en quelque sorte à l'intérieur de l'artère pour aller passer à travers le caillot et dilater cette artère et mettre un stent.
Mais avant d'en arriver là,
il y a d'autres cas de figure qui sont, quand on a la chance, si je puis dire, de ne pas faire d'infarctus, mais qu'on a quand même des rétrécissements qui vont causer des problèmes et en particulier des douleurs quand on fait des efforts parce que le cœur est mal irrigué à l'effort. C'est ce qu'on appelle l'angine de poitrine. Mais à ce moment-là, on va pouvoir aller mettre des stents dans les artères ou, dans les cas les plus sévères, faire des pontages chirurgicaux. Donc là, ce sont nos collègues chirurgiens qui interviennent pour aller contourner les rétrécissements.
Mais on a combien de temps entre la crise cardiaque et puis l'hôpital qui n'est pas forcément à côté de chez nous pour intervenir quoi, pour
Alors, c'est une vraie question parce que en quelques heures, l'ensemble du muscle cardiaque, quand il n'est plus irrigué, se détruit. Ça va un peu moins vite que le cerveau, mais ça va vite quand même. Donc on essaye au maximum de raccourcir les délais. Première chose, il faut que la population soit informée de ce qu'on doit faire quand on a une douleur dans la poitrine ou des symptômes qui peuvent évoquer un infarctus. La chose à faire, c'est d'appeler le 15. C'est ça qui va le plus vite. Et, c'est-à-dire le SAMU, le 15. Et après, en fonction de l'endroit géographique où on se trouve, eh bien, les urgentistes, dans l'ambulance du SAMU, vont choisir. Soit ils vont utiliser ces fameux traitements qui dissolvent les caillots, si on est loin. Par exemple, moi, je vais en vacances régulièrement dans la Hague, vous savez, près, au-delà de Cherbourg. Eh bien là, la première salle de coronarographie, elle est à Caen. Donc c'est loin et on ne peut pas y être rapidement. Donc dans ces cas-là, il y a tout intérêt à utiliser, s'il n'y a pas de contre-indication spéciale, ces médicaments qui dissolvent les caillots. Et puis, dans la plupart des cas, si vous habitez à Paris, si là, tout d'un coup, je me mets à avoir une grande douleur, vous allez faire le 15 pour moi parce que je n'aurai pas le courage de le faire.
Oui.
Et le SAMU va me transporter tout de suite à mon hôpital qui est à 10 minutes.
À pied.
Et on va m'amener directement dans la salle de coronarographie où mes collègues vont venir déboucher mon artère.
Il y a forcément des symptômes pour un infarctus, une crise cardiaque ?
Alors, c'est presque toujours le cas. Il y a de temps en temps des infarctus qui passent inaperçus. Il y a de temps en temps des infarctus qui
surtout
se manifestent par des symptômes un peu inhabituels, comme des douleurs dans l'estomac, par exemple, comme de l'essoufflement anormal.
Ah oui.
C'est effectivement un petit peu plus fréquent chez les femmes.
C'est un petit peu plus fréquent chez les femmes,
mais ça peut arriver chez les hommes aussi. Donc, si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas faire trop de différence entre les hommes et les femmes. Et pour revenir à votre question initiale, quand vous faites un infarctus et que vous êtes traité comme il faut, le risque est à peu près identique chez les hommes et chez les femmes.
La seule chose quand même, c'est que les femmes sont pas, ce que je leur reproche, c'est qu'elles ne prennent pas correctement leur traitement derrière. Elles sont plus difficiles. C'est-à-dire que quand un homme fait un infarctus, sa femme l'accompagne chez son cardiologue.
Oui.
À l'inverse, non. Et la femme va suivre le mari dans son régime de tous les jours alimentaire. Est-ce que tu as pris tes médicaments?
Oui.
Alors que la femme, l'homme ne le fera pas pour la femme parce que c'est comme
parce
ça.
C'est l'homme.
Exactement. Donc voilà, Julie, exactement. Donc c'est ça. Et puis surtout. Et surtout, la femme va moins à une douleur, avec la même douleur, une femme ne pensera pas à un infarctus. Alors qu'un homme.
C'est surtout le problème.
Parce qu'effectivement, les symptômes sont à peu près les mêmes. Peut-être moins violents, peut-être plus violents, peut-être accompagné de certains autres symptômes, mais la femme va dire non, mais c'est pas grave, je vais appeler mon médecin et puis ça ira mieux. Elle va pas appeler les urgences, et puis une fois arrivée aux urgences, il se peut, ça, c'est arrivé, j'ai des cas de personnes qui n'ont pas été prises en charge pour un infarctus, mais pour autre chose, parce que les symptômes n'étaient pas tout à fait très clairs, et donc ils sont passés à côté de l'infarctus, et ça a fini en réanimation, j'ai des témoignages de
femmes. Donc il y a une pédagogie médicale aussi nécessaire
c'est vraiment nécessaire, je pense à tous les niveaux. Et puis l'idée générale, mais ça c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, avec la caisse d'assurance maladie, on a analysé les facteurs qui faisaient qu'on est plus ou moins observant à son traitement après un infarctus, et c'est très très important d'être observant au traitement après un infarctus. On s'aperçoit que finalement le sexe n'intervient pas tant que ça, et c'est plus l'âge avec moins d'observance chez les très jeunes et chez les plus vieux. C'est vraiment, c'est les gens entre 60 et 70, 75 ans qui sont les plus sages, si je puis dire.
Ouais.
Les plus vieux le sont moins, les plus jeunes le sont moins.
Bon, vous nous éclairez beaucoup l'un et l'autre. Avant d'accueillir le docteur Thomas Modine, chirurgien cardiaque au CHU de Lille, il va nous parler de la toute dernière opération qu'il a faite et de la manière justement dont on accompagne mieux chirurgicalement aussi ces maladies cardiovasculaires. Isabelle Veil, présidente de la Fondation Agila pour le Red Day aujourd'hui, est avec nous, ainsi que le professeur Nicolas Danchin, cardiologue à l'hôpital Georges Pompidou. A tout de suite avec vous, Julie, et le témoignage de Laure à suivre.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Nous parlons des maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité chez les femmes, Wendy Bouchard.
Oui, en ce jour du Red Day, pour sensibiliser en effet le public féminin, mais nous parlons de tous les malades de ces maladies cardiovasculaires, des risques et surtout aussi des progrès réalisés en termes de médecine, mais de chirurgie également. Docteur Thomas Modine, merci d'être avec nous depuis Lille. Vous officiez au CHU, membre de la Fédération française de cardiologie. Bonjour à vous.
Bonjour tout le monde, bonjour Wendy.
Et je vous remercie de nous parler des techniques innovantes aussi que vous utilisez, vous, en termes d'intervention sur ces maladies cardiovasculaires, ce qu'on appelle aujourd'hui des techniques non-invasives, c'est-à-dire que vous opérez de moins en moins à cœur ouvert, docteur.
Voilà, exactement. En fait, ce dont on parle aujourd'hui, ce que vous venez de bien présenter, c'est un peu l'évolution de plusieurs techniques, mais surtout une nécessité... qui a été introduite par vos deux intervenants, Madame Veil et Monsieur Danchin.
Oui.
C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte au fil du temps que il y avait des patients ou des patientes, en l'occurrence un peu plus aujourd'hui, qui ayant bénéficié d'une opération que je rappelle, ce sont des maladies vitales. Donc on traite, on peut améliorer la qualité de vie ou on sauve ces personnes malades. On ne le traite pas, malheureusement, souvent l'issue est fatale à court ou moyen terme. Mmh. Et donc, on s'est rendu compte avec le temps qu'il y a une partie de nos patients qui ne pouvaient pas tirer bénéfice des interventions chirurgicales conventionnelles telles qu'on les pratiquait pendant longtemps.
Parce qu'elles étaient trop lourdes, pour faire clair, elles étaient trop lourdes, ces opérations à corps ouvert pour ces patients.
Exactement, ça reste quand même des interventions longues, difficiles, difficile à supporter, mais aussi difficile à réaliser de techniquement, oui, pour certains patients. Et donc, on a essayé d'imaginer ces progrès dans ce sens-là. Il y a eu le stent coronaire il y a plus de 30-40 ans maintenant. La deuxième partie, c'était l'évolution des traitements de la maladie valvulaire aortique. Et là, récemment, ce dont vous introduisiez, le traitement percutané des valves mitrales. Ce que nous avons réussi à faire ici à Lille est une rupture avec ce qu'on faisait jusqu'à maintenant depuis quelques années. Oui,
ça veut dire qu'avec ces techniques-là, les suites opératoires sont un peu moins lourdes, ce qui permet aussi aux patients de récupérer plus vite et de vivre a priori plus longtemps.
Voilà, tout à fait. Si vous voulez, il faut savoir qu'aujourd'hui, ça reste quand même des techniques qui sont au début de dans la phase naissante, oui, de l'expertise. Mais malgré cela, on se rend compte déjà, sur les patients qu'on a traités récemment, que la récupération, elle est plus rapide, la tolérance pendant le geste opératoire est plus rapide, alors qu'on s'adressait à des malades qui ne pouvaient pas bénéficier des techniques conventionnelles qu'on pouvait leur offrir jusqu'à maintenant. Pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, par exemple, quand quelqu'un a une maladie de la valve mitrale, ce dont on parle aujourd'hui, ce que vous introduisiez, c'est cela. On avait soit la chirurgie cardiaque à cœur ouvert, comme vous disiez, alors qui se fait par sternotomie de plus en plus, se fait également par des techniques de vidéoscopie, telles qu'on le pratique nous à Lille, mais dans d'autres centres français. Mais il y a aussi des techniques où on n'ouvre pas ces cavités cardiaques, on ne touche pas au cœur, donc on est moins traumatisant. Et il y a la première technique, et le mitraclip, mais le mitraclip, c'est une technique de réparation, malheureusement, elle n'est pas faisable chez tous les malades, parce que les maladies valvulaires mitrales en particulier sont très variable.
Oui, on va essayer, docteur, de pas être trop technique, mais en tout cas, on va revenir, oui, sur ces innovations et la dernière opération que vous avez accomplie lundi passé. À tout de suite sur Europe 1 pour parler des cœurs que nous mettons aussi à rude épreuve aujourd'hui et comment mieux se soigner, mieux prévenir ces maladies cardiovasculaires. Salut.
Et nous reprenons notre discussion sur les maladies cardiaques en ce Red Day, le jour rouge, comme le cœur, pour sensibiliser le public, en particulier les femmes aux maladies cardiovasculaires.
Avec la présidente de la Fondation Agila qui lance cette journée rouge, Isabelle Veil, avec le professeur de cardiologie Nicolas Danchin à l'hôpital Georges Pompidou, avec le docteur Thomas Maudine qu'on va retrouver dans un instant, chirurgien cardiaque au CHU de Lille. Insuffisance cardiaque ou arythmie, fracture du myocarde, hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires qui sont multiples et qui ne sont pas que l'apanage des hommes, vous l'avez bien compris. Mesdames, voilà pourquoi on va rappeler avec vous, professeur, aussi ce réflexe brandi par les spécialistes que vous êtes, faites régulièrement le fameux check-up, ce bilan sanguin qui permet peut-être déjà d'évincer un certain nombre de risques de ces maladies.
Alors c'est important effectivement. Il y a une chose que les Français ne savent pas, c'est que la Sécurité sociale offre à toute la population française un bilan de santé qui comprend ces fameuses prises de sang tous les 5 ans. Donc si
déjà
vous ou moi, on veut aller demain, alors je dis ça parce que je m'occupe d'un centre de prévention de ce type, mais c'est important que les gens le sachent.
Donc on va dans un centre de prévention.
On va, ça s'appelle des centres d'examen de santé, le nom a un peu changé maintenant.
D'accord.
C'est gratuit complètement et on a droit à ça tous les 5 ans.
Mmh. Je crois qu'on reçoit un papier à la maison, mais on ne fait pas attention.
Oui,
je crois qu'on reçoit un avis à la maison.
On reçoit assez régulièrement ça. Tout le monde ne le reçoit pas, mais tout le monde a le droit, même si on n'a pas reçu le papier, on peut prendre rendez-vous dans n'importe quel centre pour faire ça. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à essayer de dépister ce qu'on appelle les facteurs de risque. Alors, dans les facteurs de risque, il y en a qu'on va mesurer par une prise de sang, et il y en a qu'on va mesurer simplement en examinant les personnes qu'on a en face de soi. Alors, quand on fait l'examen, la mesure qui va être la plus simple à faire, c'est de prendre la pression artérielle, donc la tension. Et l'hypertension est vraiment un très, très gros facteur de risque. On a maintenant des traitements qui sont extraordinairement efficaces pour soigner la tension.
Oui, qui est parfois héréditaire, pardon, la tension.
Alors, qui est parfois héréditaire, effectivement. Puis il y a des tas de fois où on ne sait pas trop pourquoi ça vient.
Oui.
Et puis ça vient, et quand ça vient, c'est à peu près définitif, malheureusement. Donc il faut traiter ça. Et ça marche bien. Quand j'étais interne, alors j'ose pas vous dire quand c'était, mais quand j'étais interne, on avait tous les jours, aux soins intensifs de cardiologie, des patients qui arrivaient, des patients ou des patientes, c'était souvent des femmes, qui arrivaient pour des œdèmes pulmonaires avec des pressions artérielles à 22, 25, etc. C'est des choses qu'on ne voit absolument plus maintenant.
Oui,
quand ça arrive, tout le monde va chercher les externes pour leur dire « Regardez, vous voyez, c'est un œdème pulmonaire lié à l'hypertension », tellement c'est devenu rare. Et donc ça, c'est premier facteur de risque qui est facile à dépister. Et puis la prise de sang, il y a deux choses qu'on va pouvoir mesurer et qui sont très importantes en termes de santé des artères, c'est le sucre dans le sang, la glycémie. Donc pour ça, il faut être à jeun. Et on va essayer de voir s'il n'y a pas d'anomalie et si on n'a pas trop de sucre dans le sang, ce qui peut à la longue donner un diabète. Et puis la deuxième chose, c'est le cholestérol. Et on va vérifier s'il n'y a pas trop de cholestérol.
Oui.
Et avec la pression artérielle, le cholestérol et le sucre, on a déjà trois grands facteurs de risque.
Professeur,
et puis le quatrième grand facteur de risque qu'on peut modifier facilement, c'est le tabac, on en a déjà parlé. Et puis il y a d'autres choses qu'on peut faire,
justement,
en particulier l'exercice
voilà.
physique qu'il faut vraiment encourager. Et quand on va dans un centre comme ça, on est encouragé à augmenter son activité physique.
Et je voudrais justement vous demander votre permission, si je peux me permettre, c'est de dire, est-ce que nous, quand on parle de prévention, est-ce qu'on peut parler aux femmes de calculer leur IMC? L'indice de masse corporelle qui est, donc je l'ai noté, poids sur taille au carré, et qui doit être à peu près inférieur à 30, 28-30.
Oui. Hein,
j'ai revu mes chiffres, professeur. Oui. Je suis bonne élève. Et je dis aussi, moi je parle aussi du périmètre abdominal, parce que c'est facile, vous prenez un mètre de couturier et de couturière, et si vous êtes supérieur à 88-89, il faut faire attention, parce que ce périmètre abdominal...
Parce que les hommes ont une tolérance plus grande.
Oui, bien sûr. Moi je parle des femmes. Et quand vous avez un périmètre abdominal qui est aux alentours de 88 cm et au-dessus, voilà, il faut faire attention, il faut surveiller. C'est des choses faciles que vous faites à la maison. C'est pour ça que moi je parlais, je voulais, voilà. Est-ce que je peux continuer à parler
Isabelle,
de prévention?
D'abord, je dois vous remercier parce que vous me sauvez de désordres conjugaux, parce qu'il se trouve que mon épouse est nutritionniste et que si je n'avais pas parlé du poids du tout dans les facteurs de risque, à mon avis, je me serais fait gourmander sévèrement ce soir.
Juste après la pause, Laure va témoigner. Louisa, je voudrais juste avoir le témoignage également du docteur Thomas Maudine, vous qui êtes chirurgien cardiologue cardiaque au CHU de Lille. Est-ce que vous voyez aujourd'hui arriver des cœurs d'hommes et de femmes en plus mauvais état qu'avant, ou justement vos types d'opérations ont changé sur ces patients ces 20 dernières années?
Non, je dirais que malheureusement, oui, on a encore des patients qui arrivent un peu trop tard et chez lesquels la prévention n'a pas opéré pour des raisons, je dirais, de négligence.
Oui.
Et c'est un peu dommage. Je pense qu'on a besoin de plus de prévention, plus de dépistage de ces maladies, parce que en intervenant tôt, on peut les guérir plus facilement.
Hommes et femmes, vous ne faites pas de distinction pour le coup?
Non, pas du tout. C'est vrai que nous, dans notre pratique, quand on fait les statistiques, on a l'impression que les femmes ont une petite surmortalité, mais pas si flagrante que ça. Mais je pense aussi parce que les femmes attendent un peu plus longtemps ou se négligent un peu plus que les hommes, en effet. Elles s'écoutent un peu moins.
Ouais, ce que disait Isabelle Veil. À tout de suite, chers amis, pour faire le tour de ces maladies cardiovasculaires sur Europe 1. Comment mieux les prévenir? On a bien noté ce fameux check-up et ces possibilités d'examen gratuits une fois tous les 5 ans. Profitons-en, voilà, pour notre santé à tous.
Alors, on vient d'entendre dans la publicité qu'il y a un vendredi rouge pour acheter un canapé. Voilà. Nous, c'est le Red Day, mais c'est ce jeudi 16 mai. Le Red Day, sauver le cœur des femmes. Et on vous invite à porter une tenue rouge pour symboliser l'engagement.
Voilà, comment on prend soin davantage de notre cœur? On en parle avec Isabelle Veil qui lance cette journée depuis plusieurs années maintenant. Sauver le cœur des femmes, un ouvrage aussi aux éditions Erol, présidente de la fondation Agila, et professeur Nicolas Danchin, professeur de cardiologie à l'hôpital Georges Pompidou. Laure est avec nous depuis Nevers au 39-21. Bonjour Laure.
Oui, bonjour mesdames et bonjour messieurs. J'ai voulu témoigner parce que je suis malheureusement le résumé de pas mal de points que vous avez évoqués. Je suis la fille d'une dame qui est morte à 75 ans, 3 mois après avoir fait un infarctus dans son sommeil. Donc, elle n'en s'est pas rendue compte, mais elle avait depuis une quinzaine de jours des nausées. Et SOS Médecin, qui est venu 12 fois, n'a pas semblé très inquiet. Et puis, elle a fini par faire un œdème pulmonaire. Et là, bon, et bien évidemment, c'était évident qu'elle avait un infarctus, donc elle en est morte 3 mois après. Mmh. Et moi, j'ai voulu témoigner parce que je suis quelqu'un qui a toujours vécu sainement, addict à la nature. J'ai fait de la marche, du vélo, de la natation, de la voile. Je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais bu. Enfin, j'ai toujours vécu sainement. Et il y a quelques années, quand je faisais mon vélo et que je montais des pentes assez raides, j'avais mal dans les cuisses. Mmh. Et je suis allée voir chez mon... Bon, manque d'oxygène, ça me paraissait relativement... Je suis allée voir mon cardio et je lui ai dit « Vous connaissez mes antécédents familiaux ?» Il m'a dit « Oui, bien sûr, il faut faire très attention, d'autant plus qu'avec vous, il ne faut pas raisonner formaté, parce qu'on est sûr de se tromper. » Bon, alors, j'ai évoqué avec lui la possibilité d'une coronaro. Il m'a dit « On n'en est pas là, on va voir, on va surveiller. » Finalement, les choses se sont relativement stabilisées. Alors, tension parfaite à 13,7, un petit peu d'enrobage, un petit peu de surpoids, mais manger sainement, pas salé, etc.
Oui.
Et puis, un jour, je suis retournée voir, j'ai changé de cardio parce que j'avais changé de département, qui m'a dit, mais attendez, votre ancien cardio, il était phobique de la coronarographie, mon ancien cardio, parce qu'il me disait, ah ben oui, mais s'il y a un accident, qu'est-ce qu'on fait?
Une coronarographie, juste à Nicolas Danchin, vous pouvez nous expliquer ce que c'est?
Alors, une coronarographie, c'est une radio des artères du cœur.
Oui.
Donc, on passe des petits tuyaux à l'intérieur des artères et on injecte du produit à l'intérieur des artères du cœur pour faire comme un moulage des artères. Donc, on voit s'il y a des rétrécissements ou pas.
C'est assez délicat comme opération?
Ça se fait facilement, mais c'est comme toutes les interventions où on rentre à l'intérieur du cœur, il peut y avoir des complications.
D'accord. Laure, donc, pardonnez-moi, je faisais une petite
parenthèse. Et en plus de ça, ça irradie de façon pas complètement négligeable, puisque ce sont des rayons qu'on utilise pour faire l'examen.
D'accord.
Donc l'un dans l'autre, c'est un examen qu'on ne fait pas pour rien, quoi.
C'est ça. Ouais. Merci. Alors Laure, pardonnez-moi.
Alors oui, donc en fait, on a été assez minimaliste. J'ai passé un scanner cardiaque à Paris.
Mmh.
Et là, dans ce cabinet, il y avait une cardiologue qui m'a convoquée tout de suite après la radio, qui m'a dit, après le scanner, qui m'a dit, oh là 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 là, vous avez des plaques et vous en avez un petit peu partout. Ah bon? ok. Et là-dessus, bon, je vais faire court, j'avais pas mal de sténose, c'est-à-dire des rétrécissements, bon, en particulier sur la fameuse IVA, la principale coronaire. Donc, en fait, j'ai été hospitalisée pour une nouvelle coronaro en banlieue parisienne il y a quelques années, et là, on m'a fait 4 dilatations plus un stent sur l'IVA. J'étais sténosée à presque plus de 80%. OK. Et on m'a dit, vous revenez parce qu'il faut remettre un stent sur la coronaire droite. Et comme j'allais guère mieux quelques mois après tout ça, et que j'avais fait de la fièvre après, mais enfin ça c'est un détail, on m'a repassé une coro dans un autre CHU.
Vous êtes la preuve justement qu'on en apprend au fur et à mesure des examens. Vous n'avez pas fini, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir faire toute l'histoire avec vous, mais
total,
pour arriver à la conclusion, Laure.
Total. J'ai téléphoné au chirurgien de Pompidou qui avait opéré ma mère et il m'a dit, vous venez. Bon, ça suffit, on ne va pas barguigner encore je ne sais pas combien de temps. Il m'a fait un double pontage il y a 5 ans.
D'accord.
Voilà.
À cœur ouvert, donc.
Comment ?
À cœur ouvert,
oui. Bien sûr, sur un cœur qui avait déjà été pas mal trituré, si j'ose dire.
Et tout ça, Laure, sans symptômes, je veux dire, vraiment.
Moi, j'avais pas de symptômes. Et puis, en plus, une vie super saine, une alimentation super saine, pas toxique.
Oui. Vous avez pris les choses à temps, professeur Nicolas Danchin. Voilà un parcours de vie d'une femme qui est responsable aussi de sa santé. Et ça traduit bien ce que vous faites dans cette journée, le Red Day, Isabelle Veil. Nicolas Danchin, pour revenir sur le parcours de Laure.
Alors, c'est un parcours comme tous les parcours individuels qui est intéressant. Il faut se garder d'en tirer des règles générales parce que ce qui est valable pour une personne n'est pas forcément valable pour une autre. Il y a une règle qu'on peut en tirer, c'est qu'effectivement, on a parlé des différents facteurs de risque qu'on peut modifier, mais il y a des facteurs de risque qu'on ne peut pas modifier. Et en particulier, les gènes. Et on sait qu'il y a des familles où on est plus prédisposé à faire des accidents cardiaques et avoir les artères qui s'encrassent. Et donc là, ça semble être le cas de Laure.
Oui.
Et donc, c'est quelque chose dont il faut tenir compte et qui est vraiment important à analyser. Et derrière ça, une fois qu'on sait qu'il y a ce facteur de risque qui peut être un facteur de risque important, il faut adapter les examens qu'on va être amené à faire. Alors, je vais juste dédouaner son premier cardiologue. Je pense qu'il a bien fait de ne pas faire tout de suite la coronarographie parce qu'à l'époque, Laure avait peu de symptômes.
Oui.
Elle n'a d'ailleurs pas eu de complications graves par la suite. Elle n'a pas fait d'infarctus, etc. Donc, il n'y a pas eu vraiment de temps perdu dans l'affaire. Et donc, je veux dédouaner son premier cardiologue, qui a sans doute bien fait de ne pas lui faire immédiatement une coronarographie.
Deux petites questions pour réponse rapide, s'il vous plaît. Manuel nous demande sur Facebook si les régimes fragilisent les cœurs. Nicolas Danchin, Isabelle Veil.
Bon, moi, je trouve que surtout les régimes fragilisent les cœurs et le moral. Donc, voilà. Donc, après tout, un régime peut être bon s'il est raisonnable.
Et proportionné.
Proportionné. Enfin, mangeons équilibré, faisons un peu de sport. Et je pense qu'on n'aura pas besoin de faire des régimes. Après,
mais j'entends la question, le régime yo-yo, on perd 20 kilos, on en reprend 30.
Mais oui, voilà.
C'est terrible pour le cœur.
C'est bon pour rien.
Oui.
C'est pas bon pour le moral.
Non.
C'est pas bon pour le cœur. C'est bon pour rien. Donc effectivement, il faut se méfier des régimes, il faut encore plus se méfier des régimes miracles, parce qu'il n'y a pas de régime miracle, ça peut être miraculeux pendant quelques mois et puis après, effectivement, c'est le yo-yo et ça revient en boomerang. Et je souscris tout à fait à ce qu'a dit Isabelle Veil, c'est-à-dire que je pense que ce qui est important, c'est de manger équilibré et diversifié surtout. On est dans le fond très très ignorant sur les conséquences de notre nutrition sur la santé en général et sur la santé des artères et du cœur en particulier. Donc on a beaucoup pensé de choses là-dessus. Beaucoup de choses ne sont pas très étayées et donc il faut être raisonnable avant.
Merci. Autre question à suivre, témoignage de Daniel également et témoignage de Sabine au 3921. À tout de suite sur Europe 1 pour faire le point sur ces maladies cardiovasculaires.
Comment la médecine a progressé pour mieux prévenir les maladies cardiovasculaires. Wendy Bouchard.
En ce jour de Red Day, Isabelle Veil, on s'habille de rouge, on sensibilise sur le cœur des femmes et on peut aussi sur les réseaux sociaux.
Exactement, c'est-à-dire qu'on s'habille en rouge, oui. C'est ça, on s'habille en rouge, on fait des photos, on marque le hashtag Red Day et plus on sera nombreuses à faire ce hashtag Red Day avec une photo en rouge, plus on fera de la sensibilisation auprès de toutes les femmes. Merci.
Avec un chiffre qui, quand même, nous fait du bien et qui met en avant aussi le travail des professeurs de cardiologie dont vous êtes, Nicolas Danchin, sur la mortalité liée à ces maladies.
Alors, la mortalité a diminué de façon absolument extraordinaire au cours des 25-30 dernières années. On a globalement une diminution d'à peu près 60% de la mortalité cardiovasculaire sur cette période. C'est quelque chose d'énorme. La mortalité cardiovasculaire était la première cause de mortalité en France chez les hommes comme chez les femmes. Et du coup, ça n'est plus le cas maintenant, effectivement. Et pour les gens qui font un infarctus du myocarde, on a même une diminution des deux tiers de la mortalité pendant les 20 dernières années. C'est quelque chose qui est tout à fait spectaculaire.
Le fait est que pour ces maladies cardiovasculaires, si on met de côté certains facteurs, on peut en éviter certaines aujourd'hui. En tout cas, on peut bien les prévenir, bien les accompagner. Daniel, quelques petites secondes avec vous, vous qui nous appelez d'Evreux, cher Daniel au 3921, bonjour.
Bonjour, messieurs, dames.
Sensible à ce sujet. Alors,
moi, je suis concernée parce que tous les cardiologues disent. Au mois de mars, moi, j'ai subi aussi une chorono. Mmh. Et j'ai eu 3 stents de posée.
Oui.
Et au mois d'avril, là, j'avais 2 l'artérite. Et ils m'ont également posé des stents dans la jambe droite.
Vous ne fumiez pas? Vous ne buviez
pas?
J'ai
jamais fumé, jamais bu. Je fais 50 kilos. Oui. J'ai une vie, tout ce qu'il y a de régulière, je suis assez active, j'étais très sportive quand j'étais jeune,
oui.
Et ça m'est tombé dessus comme ça, sans crier gaffe. C'est simplement au mois d'octobre l'année dernière, j'avais un peu mal dans le mollet,
oui.
Et j'ai consulté une femme chirurgien parce que je voulais me faire enlever une varice qui me déplaisait derrière, et elle m'a dit, oh mais avant de faire tout ça, faut d'abord passer un Doppler.
Oui.
J'ai donc passé le Doppler au mois d'octobre. Et ce médecin qui m'avait vu 4 ans avant, j'avais pas de problème. Bon, ben, il m'a ausculté de ça, il m'a dit, oh, mais madame, vous faites de l'artérite. Et ben voilà. Là, vraiment, je suis tombée des nues.
Oui, mais...
Et à la suite de tout ça, j'ai vu mon médecin traitant. Il m'a dit, bah maintenant, il faut passer un électrocardiogramme. Et puis, tout s'est enchaîné.
Merci, Daniel. Mais vous prouvez qu'avec de bons spécialistes, de main en main, on est bien suivi et on peut arriver à des opérations qui sauvent des vies, qui vous permettront de vivre longtemps. Sabine nous écrit qu'elle a fait son infarctus à 37 ans, seule dans une salle des fêtes. Elle n'a rien dit à personne. Elle est rentrée chez elle. Elle a fait le 17. Elle s'est écroulée. Heureusement, les pompiers sont arrivés. C'était il y a 10 ans. Mais c'est typique des cas aussi en valeur, Isabelle Veil.
Quand je vous dis que effectivement, des jeunes femmes maintenant, des femmes jeunes sont touchées par un infarctus. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est parfois ces femmes jeunes, elles ne sont pas justement détectées comme faisant un infarctus, mais plutôt, on leur dit, vous faites une crise d'angoisse.
Voilà. Donc rien.
Rentrez chez vous, ça va aller mieux.
Oui.
Et en fin de compte,
Il y a une double pénalité. Les personnes elles-mêmes, les victimes elles-mêmes ne pensent pas qu'elles peuvent avoir une crise cardiaque. Et les médecins... n'y pense pas forcément non plus.
Voilà, on ne passe pas toutes ces choses-là. L'éducation aussi aux gestes qui sauvent, chers amis. Cette journée du Red Day peut vous faire réagir. Merci professeur Danchin, professeur de cardiologie à l'hôpital Georges Pompidou. C'est le 15 que vous faites en cas d'urgence et de problème, le SAMU. Et puis pour plus d'éclaircissements, je vous renvoie au livre d'Isabelle Veil, Sauver le cœur des femmes aux éditions Erol. Merci à vous tous et merci pour vos très nombreux témoignages. Je vous dis à demain, ma chère Julie, et vive le rouge.
À demain. C'était Wendy Bouchard et c'était le tour de la question. Avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique.